Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous. Depuis le 25 mai dernier et la mort tragique de George Floyd à Minneapolis, des voix et des poings se lèvent à travers le monde entier pour réclamer plus de justice et d'égalité raciale. Si aux États-Unis, la lutte antiraciste et le mouvement Black Lives Matter viennent interroger les fondements de la société américaine, le débat, qui surgit plus largement autour du passé colonial et esclavagiste, nous parle à tous, blancs ou noirs, racisés ou pas. À Si loin, si proche, pour ceux qui nous écoutent, vous savez que nous interrogeons de longue date l'histoire noire des cités du monde. Nous sommes partis notamment sur la route des droits civiques aux États-Unis, celle du chemin de fer clandestin au Canada, ou encore celle de l'esclavage dans les Caraïbes, ou la côte atlantique française dans les ports esclavagistes de Nantes ou Bordeaux. En 2016, il y a 4 ans, nous étions également partis à la découverte de 2 lieux culturels, pionniers à leur manière, qui ont décidé, eux aussi, de regarder l'histoire de la traite transatlantique, qui aura sévi du 16e au 19e siècle, en face. Et c'est ce voyage, un pied en Amérique, l'autre en Europe, que nous vous proposons de réentendre cette semaine, afin de nourrir la réflexion et le débat actuel sur comment peut se raconter ce crime contre l'humanité qu'était la traite, comment des villes, des régions tout entières ont bâti leur richesse, leur prospérité, voire leur culture sur un tel crime, et enfin quels sont les stigmates laissés dans le sillage des bateaux dits négriers sur nos sociétés contemporaines. La première partie de ce voyage, réalisée donc en 2016, débute en compagnie de Cerise Maréchaux dans la moiteur du sud des États-Unis, à 1 heure de route de la Nouvelle-Orléans.
Là-bas, vous avez 4 chaudières.
Donc là, on longe en fait une rangée de bassines en cuivre.
Ce sont des chaudrons que l'on utilisait pour cuire le jus de canne jusqu'à cristallisation, pour produire donc du sucre. Et ensuite, on mettait ça dans des tonneaux et transportait vers le nord pour le raffiner. C'était un travail très difficile parce que les esclaves manipulaient des liquides très chauds et parfois il y avait des accidents. Donc c'était un travail extrêmement difficile.
En plus par cette chaleur infernale?
Ah oui, heureusement que la roulaison se déroulait pendant l'hiver.
C'est vraiment immense. Ça fait combien d'hectares, cette plantation?
Ben, la plantation, c'est 1800 acres. Je crois que c'est 4500 hectares. Mm-hmm. Ouais.
On est où en Louisiane exactement?
Bon, nous sommes sur la côte des Allemands, quelque part entre la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge.
Et de prime abord, quand on arrive, c'est un petit paradis. Il y a beaucoup de verdure, des grandes étendues de champs de canne à sucre tout autour. C'est très boisé. Mm-hmm. Il y a un marécage où des cyprès sont immergés au niveau des racines. Il y a des bananiers, des palmiers. On entend les oiseaux. Mm-hmm. Les bâtisses sont très bien restaurées. Ouais. Et ça cache une histoire beaucoup plus traumatique, beaucoup plus sombre.
Absolument. Quel que soit l'endroit où nous sommes, nos visiteurs oublient pratiquement. C'est tout ce qu'ils voient qui est beau autour d'eux. Donc c'est la verdure, c'est un cachet vraiment subtropical. Mais l'histoire qui est enveloppée dedans donne beaucoup à réfléchir.
En Louisiane, pays des plantations, ces grands domaines aux demeures blanches et grandioses d'inspiration créole et néoclassique se succèdent dans le paysage. Autrefois maison des planteurs de coton et de canne à sucre, ces lieux parfois magnifiquement restaurés et ouverts au public ont longtemps raconté aux visiteurs l'histoire du Vieux Sud uniquement du point de vue de ses riches propriétaires. La Whitney Plantation, où s'est rendue pour nous Cerise, a décidé, elle, de changer de point de vue, en ouvrant, en 2015, le premier musée des États-Unis uniquement consacré à l'esclavage. Et c'est Ibrahima Seck, universitaire sénégalais installé aux États-Unis et directeur de recherche à la Whitney, qui s'est plongé pendant plus de 10 ans dans cette histoire douloureuse. Celle d'une plantation fondée en 1752 par Ambroise Heidel, un Allemand venu comme beaucoup d'autres avec la Compagnie des Indes occidentales, qui avait alors en charge la Louisiane, d'où le nom d'ailleurs de Côte des Allemands. Une plantation donc où ont travaillé 354 esclaves noirs. Et c'est à eux que l'on rend hommage dès le début du parcours de ce musée à ciel ouvert.
Ici nous sommes auprès d'un mur, c'est le premier mémorial sur cette plantation. C'est ce que l'on appelle « the wall of honor », c'est-à-dire le mur de l'honneur. Sur ce mur, nous honorons la mémoire de tous les esclaves qui ont vécu sur cette plantation. sur des plaques de granit. Nous avons donc des noms avec leur date de naissance approximative, leurs compétences. Je vois ici Marguerite qui était domestique, Alexandre, Bastien, nègre des champs et un charretier.
Sous son nom, il y a marqué Griffe.
Griffe, ça veut dire qu'il est né de parents africains et amérindiens.
C'était un métis.
Noir et amérindien, oui, c'était un métis. Oui. Donc on les appelait Griffe ici en Louisiane.
C'était fréquent?
Ah oui, c'était très fréquent parce que les Amérindiens étaient aussi esclaves dans les plantations de Louisiane, surtout au XVIIIe siècle. Ouais.
Et on voit aussi Pauline, couturière et laveuse.
Et laveuse, oui.
Née en 1828.
Née en 1828. Ça, c'est le 19e siècle. Hein.
Ouais.
Alors, si vous venez de ce côté, vous avez surtout des gens qui sont nés au 18e siècle et pour la plupart qui sont venus de l'Afrique.
Oui.
Comme par exemple, vous avez Mathurin de nation Congo, Charles de nation Mandingue. Nous avons aussi des Poulards, c'est-à-dire des gens de la vallée du fleuve Sénégal, donc que l'on appelle tout couleur au Sénégal. Il y a aussi Jean de nation Nar. Nar, c'est le nom que nous, les Wolofs au Sénégal, donnons aux Maures de Mauritanie. Nous avons aussi des gens qui sont venus du Nigeria comme Tom, de nation Ibo.
Mais quel était leur trajet précisément? Est-ce qu'ils arrivaient par bateau directement au niveau du port de la Nouvelle-Orléans ou est-ce qu'ils transitaient par d'autres ports d'Amérique et après venaient ici par le train?
En ce qui concerne la traite atlantique, les esclaves transitaient assez souvent par les Caraïbes parce que la Louisiane est très loin. Donc ils relâchaient dans les Caraïbes, notamment à Saint-Domingue, renouvelaient leurs provisions pour continuer. Alors, quand la traite, comment dirais-je, a été abolie, les esclaves qui venaient de la côte est des États-Unis soit transitaient par la mer autour de la Floride jusqu'au marché de la Nouvelle-Orléans, ou bien on les faisait marcher depuis la côte est, la côte atlantique, jusqu'en Louisiane, 3 à 4 mois.
Ouais. J'imagine que de nombreuses personnes mouraient sur le chemin.
Ah oui, absolument. C'est ce qu'ils appellent le deuxième passage du milieu. Comparaison au passage du milieu de Middle Passage à travers l'océan Atlantique. Vous voyez, le principe ici, c'est au moins de ramener ces personnes à la vie. Donc, leur nom dormait dans des archives, principalement des inventaires de cette plantation. Nous avons trouvé, donc, la meilleure manière de leur rendre hommage, c'est aussi de les ramener à la vie.
Une manière de leur redonner une identité?
Absolument, de leur donner une identité pour montrer que c'était des êtres en chair et en os, qui avait une origine, qui avait des compétences et tout. À votre gauche, nous avons une grange. Mais vous voyez, elle est surélevée. C'est là que l'on gardait les récoltes, les semences.
Il fallait les protéger des bêtes.
Pas des bêtes, mais surtout des inondations. Nous sommes à Louisiane, près d'un fleuve. Il pleut beaucoup aussi. C'est le fleuve Mississippi. Commandé en langue algonquine, Mesa Chebe, ça veut dire le père des fleuves. Le Mississippi, c'est comme une charnière centrale qui coule de la frontière canadienne jusqu'au golfe du Mexique et qui reçoit tant de cours d'eau tributaires comme le Missouri, l'Ohio, Tennessee, etc. C'est extraordinaire. Ouais. C'est la cage en fer, là. Ça, c'est une prison pour enfermer des esclaves marrons. Les esclaves fugitifs. On l'a trouvé enterré dans la boue.
Comme un bloc en fer, il y a 3 portes,
ouais,
3 grilles.
Absolument, oui. Ouais.
On peut rentrer?
Absolument, oui. On peut rentrer dedans.
C'est minuscule.
Ouais.
Dans cette prison en fer, aux allures de containers ou de wagons qui rappellent d'autres heures sombres de l'histoire de l'humanité, une image saisit alors le visiteur. À travers les barreaux rouillés, au loin, on aperçoit les élégantes colonnades de la grande maison blanche du maître. Et forcément, on pense, mais surtout on ressent ce qu'ont pu vivre les esclaves à cette époque. Aux États-Unis, la vente d'esclaves venus d'Afrique a été officiellement interdite dans le sillage des Anglais en 1807. Mais l'esclavage, lui, va perdurer dans le pays jusqu'en 1865, date de son abolition à l'issue de la guerre de Sécession. Les États du Sud, rassemblés sous la bannière des confédérés, souhaitant à l'époque maintenir l'esclavage. La suite de l'histoire aux États-Unis, c'est la ségrégation raciale qui va s'en suivre, la lutte pour les droits civiques, l'égalité au bout du chemin. Et à la Whitney Plantation, on raconte aussi la résistance des esclaves. Ibrahim Assek.
Il y avait beaucoup d'esclaves marrons dans les marécages. Peut-être qu'ils savent qu'on allait les vendre ou bien parce qu'ils sont menacés de punition ou bien qu'ils étaient fatigués de travailler. Voilà. Donc ils retrouvent une ère de liberté. Il y a des gens qui sont devenus marrons et qui ne sont jamais rentrés dans les plantations. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand marronnage. Et même qui, en certaines occasions, participent activement à des révoltes ou bien des tentatives de révolte. Par exemple, la plus grande révolte qui a eu lieu dans le sud des États-Unis s'est déroulée ici, sur la côte des Allemands, en janvier 1811, quand des centaines d'esclaves ont quitté les plantations et ont marché vers la Nouvelle-Orléans pour prendre la ville et libérer tous les esclaves. Bien sûr, ils ne pouvaient pas gagner. Ils n'étaient pas du même nombre que les esclaves qui ont renversé la situation à Saint-Domingue pour qu'il y ait la République libre d'Haïti. Ils ont été défaits par la milice qui était appuyée par les troupes régulières. Beaucoup sont morts dans l'action, d'autres sont échappés pour devenir des marrons et beaucoup ont été capturés, amenés devant un tribunal expéditif qui les a condamnés à mort et qui avait décidé aussi que chaque esclave condamné à mort devait être fusillé devant la plantation de son maître et décapité et la tête postée sur un pieu. C'est le traitement qui a été réservé aux esclaves qui se sont rebellés. Donc sur toute la longueur de la côte des Allemands, à l'époque, les voyageurs pouvaient voir ces têtes qui pourrissaient sur des pieux. Donc c'est une manière de dire aux autres esclaves, attention, si vous vous révoltez encore, voilà ce qui va vous arriver. Le contrôle des esclaves était basé sur beaucoup de violence. L'esclavage était une institution très, très violente. Bien, on va aller voir un autre mémorial. C'est un mémorial dédié à toutes les personnes qui étaient esclaves en Louisiane. Voilà 107 000 noms. C'est seulement entre 1719 et 1820. Sur chaque plaque, deux citations d'esclaves et une image. Ces citations sont tirées d'interviews qui ont été faites dans les années 1930, pendant la crise économique des années 30, quand on a envoyé des milliers de jeunes étudiants, beaucoup de Noirs américains aussi, pour récupérer les témoignages des anciens esclaves. Dans le cadre de ce qu'ils appelaient à l'époque la Federal Writers Project, il y avait encore des survivants, ils étaient très vieux, bien sûr, pour la plupart, mais ils avaient une mémoire assez vivace. You see, one morning, we all heard it up, and mommy was crying and said, we're going to Texas, but can't take papa. Donc, c'est Josephine Howard, qui était esclave, qui explique que, tu sais, à la veille de la guerre civile, ils ont amené beaucoup d'esclaves, ont été transportés au Texas en attendant. Donc, passe la tempête. Alors, Joséphine avait un papa, mais le père appartenait à une autre plantation. Donc c'est une famille qui a été éclatée.
Parce que les esclaves avaient un statut très précis. Ils appartenaient à la terre où ils travaillaient.
Absolument. Vous êtes attaché à la glèbe, vous êtes attaché à la terre, à moins qu'il accepte de vous vendre au maître de votre épouse. C'est la séparation. You got to move. I know you got to move. You got to move on. One day you got to move.
Et donc là, on est monté sur le porche d'une cabane en bois qui a l'air bien vieille.
Oui, entrez.
C'est une cabane d'origine ?
Oui, c'est une cabane d'origine. Nous avons deux cabanes d'origine qui sont sur cette plantation. Et même celle-là, je soupçonne qu'elle date de la fin du XVIIIe siècle.
Donc une cabane en bois qui fait à peu près peut-être 20 mètres carrés.
Oui, c'est pas très grand.
Ouais. Il y a une cheminée en pierre.
Donc c'est divisé en deux sections et avec la cheminée au milieu. Donc cette cabane-là pouvait contenir deux familles. Bon, quand on dit une famille chez les esclaves, très souvent c'est la mère et ses enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le père très souvent pouvait appartenir à un autre maître et à une autre plantation.
Alors comment ils se rencontraient si le père et la mère appartenaient à deux plantations différentes ?
Ben, vous savez, entre deux plantations, il n'y a pas de barrière. Les esclaves pouvaient se rencontrer la nuit après le travail. Ils sortaient pour aller danser dans les champs ou bien au niveau de la sucrerie. Ils pouvaient, comment dirais-je, se retrouver quelque part, parce que le dimanche, c'était un jour libre. Ils pouvaient se rencontrer aussi à l'église. On ne l'enchaîne pas. On enchaîne un esclave en cas de punition. Les esclaves circulaient. Il fallait un pass, donc une permission écrite du maître, et très souvent même dans Louisiane. Donc c'était un espace pionnier. Et très souvent, les maîtres envoyaient leurs esclaves dans les bois, dans les marécages, pour construire des habitations. Ou bien ils les envoyaient dans des prairies, loin des habitations, pour s'occuper des vaches. Les premiers cow-boys, ici aux États-Unis, c'était des Noirs, des esclaves. Et là, nous sommes enfin arrivés au niveau de la maison du maître. Et vous voyez très bien que tout ce qui se passait dans les champs, les cabanes à nègres, tout le travail dur de l'aube au crépuscule, c'était pour rendre les locataires de ces lieux, pour les rendre riches et confortables. Comme on ne peut pas évoquer uniquement la splendeur des maîtres et oublier les esclaves. Il y a quand même un devoir de reconnaissance. C'est ça que nous expliquons à nos visiteurs.
Dans la grande salle d'accueil de la plantation Whitney, tout un pan de mur est dédié aux visiteurs pour qu'ils puissent déposer un post-it avec dessus écrit leurs impressions. Il y a une dame qui vient d'en poser un. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez écrit ?
Je viens d'écrire qu'ici, on raconte une grande histoire, une histoire qui mériterait d'être plus partagée, afin que nous puissions tous avancer ensemble.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Rebecca West. Je viens de Caroline du Nord.
C'est la première fois que vous venez à la plantation Whitney ?
Oui, je pense que c'est un lieu important qui permet de raconter l'histoire de l'esclavage d'un autre point de vue. Vous savez, les esclaves ont créé énormément de choses, mais on les reconnaît rarement pour ça. Par exemple, qui sait que la Maison Blanche à Washington a été construite par des esclaves ? On l'a appris récemment. C'est donc une histoire qui a été longtemps cachée et qui devrait être plus mise en avant. Ici, je pense beaucoup à mes ancêtres, parmi lesquels il y avait sûrement des esclaves. Je me dis qu'ils ont été tellement courageux et forts pour pouvoir dépasser tout ça. Mais pour l'instant, je vous avoue que j'ai du mal à parler de cette visite. Je suis encore bouleversée par tout ce que j'ai vu ici. J'ai besoin de recul, je crois. Bien sûr, auparavant, j'avais lu des livres et vu des films sur la vie des esclaves. Mais d'être là, sur la même terre qu'eux, c'est très différent. Et puis aussi, ici, on comprend mieux pourquoi, une fois libérés, les anciens esclaves ont dû rester sur la plantation. Ils ne savaient pas où aller. Ces petits métayers ont dû payer pour tout. Ils vivaient dans la misère la plus totale. Alors que nous étions censés être libres.
La dernière étape, c'est ce que nous appelons le chant des anges, en anglais « The Field of Angels ».
On est devant une très belle statue de bronze.
Oui, c'est une statue avec un ange auquel l'artiste a décidé de donner des traits féminins et africains.
Oui, avec les cheveux finement tressés,
oui, c'est ça.
La poitrine nue.
Oui, et qui porte un bébé. Là, c'est un petit enfant esclave mort que l'ange vient récupérer pour l'amener au ciel.
La mortalité infantile était...
extrêmement élevée. La mortalité des femmes et de leurs enfants était très élevée. Les femmes travaillaient, certains étaient anémiés, etc. C'est un rythme de travail vraiment infernal. Et les enfants étaient aussi frappés par des maladies. Beaucoup sont morts noyés ou brûlés, ou bien frappés par la foudre dans les champs. Parce que les petits-enfants travaillent dans les champs aussi. L'enfance, pour les esclaves, se terminait à 10 ans. Une fois que vous avez 10 ans, vous pouvez être vendu à tout moment. La loi permettait aux maîtres de les vendre, comme du bétail. C'était quoi l'esclavage ? Donc, une institution très brutale, inhumaine. L'esclave est complètement déshumanisé. Donc quand vous venez ici, vous êtes face à des noms de personnes qui ont vécu ici dans cette plantation ou ailleurs en Louisiane. Ils vous parlent au niveau de tous les mémorials. Ils vous parlent.
Ils nous parlent et nous regardent à travers notamment de fantomatiques sculptures d'enfants noirs disséminées un peu partout sur cette plantation afin de donner un nom et un visage à tous ces héros de la liberté. Tout de suite, on écoute Just et Run the Jewels sur RFI. Juste après, on prendra la direction de Liverpool, une autre plaque tournante de la traite dite négrière qui a décidé enfin d'assumer son passé.
mastered economics, cause you took yourself from squalor. Slave. Mastered academics, cause your grace said you were scholar. Slave. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow.
Shit.
Look at all these slave masters posing on your dollar.
Get it?
Yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar.
Get it?
Look at all these slave masters posing on your dollar.
Get it?
Look at all these slave masters posing on your dollar.
Get it?
Look at all these slave masters.
Been it time, I'm on mine, I be minding mine. Every time, on my grind, I'm just trying to shine. Make a dollar, government, they want a dozen dimes. The petty kind might kill you cause they see you shine. I done had to have a talk with myself many times. Am I a hypocrite cause I know I did plenty crime. I get broke too many times, I might slang some pine. You believe corporations running marijuana. Your country getting ran by a casino owner.
Ooh.
Pedophile sponsor all these fucking racist bastards. And I told you once before that you should kill your master. Now that's the line that's probably gonna get my ass up.
Master of these politics, you swear that you got options.
Right.
Master of opinion, cause you vote with the white collar.
Right.
The 13th Amendment says that slavery's abolished.
Yeah.
Look at all these slave masters posing on your dollar.
Get it?
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
These are the first docks that were built to repair the slave ships.
Ici, nous sommes sur les quais, à l'endroit même où l'on réparait les bateaux négriers à Liverpool. Sur ce panneau devant nous, on voit la peinture d'un navire d'esclaves datant de 1780. Et au-dessus, il est écrit « Si ces pierres pouvaient parler ». Eh bien, si elles pouvaient parler, elles nous raconteraient le rôle crucial qu'a joué Liverpool dans la traite transatlantique. Depuis ce temps-là, les quais ont énormément changé et seuls subsistent ces deux cales sèches en face de nous, témoins de l'histoire de la traite négrière ici, entre 1750 et 1807, date de son interdiction au Royaume-Uni. Beaucoup pensent que cette date a sonné la fin de l'esclavage dans l'Empire britannique. Mais pas du tout, il existait encore dans les colonies.
L'esclavage a été aboli par le Royaume d'Angleterre en 1833.
Oui, et après, tout dépend de chaque pays, de quand il a décidé de réellement mettre un terme à l'esclavage.
C'est de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, cette fois que continue notre voyage à travers la mémoire et l'histoire de l'esclavage. On est à présent avec vous, Sarah Lefebvre, au nord-ouest de l'Angleterre, à Liverpool, où vous êtes partie pour nous, à l'embouchure de la rivière Mersey, face à la mer d'Irlande, sur les docks, un lieu donc où les pierres parlent.
Oui, Eric Scott Lynch, guide dans la ville, sait les faire parler. Il a monté le seul tour thématique à Liverpool, autour de l'esclavage, afin de rompre, dit-il, avec un silence coupable, long de deux siècles.
Car Liverpool, ce n'est pas que le fou ou les Beatles, c'est bien avant ça, au XVIIe et au XVIIIe siècle, le centre névralgique de la traite négrière, avec plus de 5000 voyages organisés par les marchands de la ville en direction de l'Afrique, puis des Amériques. C'est dire, Sarah, si cette histoire pesait lourd dans les mémoires.
C'est seulement en 2007, pour le bicentenaire de l'interdiction du commerce triangulaire, que Liverpool a ouvert un lieu spécifiquement consacré à cette page sombre de l'histoire de la ville. Il est sur l'Albert Dock, le quartier des quais, refait à neuf, dans un décor industriel en briques rouges.
On vous retrouve devant ce musée international de l'esclavage avec Richard Benjamin, son directeur.
Bien, nous sommes actuellement sur les docks, juste devant le musée du Merseyside, qui retrace l'histoire du port de Liverpool. Le musée maritime a ouvert au milieu des années 80, au moment où le quartier d'Albert Dock, où nous nous trouvons, a été totalement réhabilité. Et aujourd'hui, c'est un quartier très touristique. Le musée international de l'esclavage se trouve en fait au troisième étage du musée maritime. Et au début des années 90, il y avait seulement au sous-sol un espace, une galerie, dédiée à l'esclavage transatlantique. Cette galerie a très vite connu un grand succès. Donc vers 2002-2003, les musées nationaux de Liverpool ont décidé d'accorder une plus grande place à l'histoire de l'esclavage. Ils ont alors décidé de consacrer tout un musée à cette histoire du commerce transatlantique. C'est pour cette raison qu'ils ont fondé ce musée international de l'esclavage, qui a ouvert ses portes le 23 août 2007.
Donc c'était une galerie, c'est devenu un musée. Est-ce que c'est le premier musée ?
sur l'histoire de l'esclavage. Et est-ce que c'est aussi le seul musée? Beaucoup disent que c'est le seul musée sur l'histoire de l'esclavage.
Oui, et c'est surtout le seul musée national au monde consacré à ce sujet. Donc on peut dire que c'est le premier et le seul, à ma connaissance. Bien sûr, ailleurs dans le monde, il y a des galeries, des expositions permanentes sur l'esclavage, mais pas tant que ça finalement. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a la galerie du musée des Docklands, ouverte en 2007. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre dans le pays. Et à l'étranger, c'est pareil. Donc on peut dire que nous sommes un club à part, avec une histoire très riche. Et nous sommes fiers d'avoir accompli ce travail. On rentre à l'intérieur ?
On rentre à l'intérieur du musée. On est dans le hall du Merseyside Maritime Museum, au rez-de-chaussée. Et on va au troisième étage. Vous êtes déjà venu visiter ici ?
Non.
London.
Londres. On vient de Londres. En fait, on est déjà venu hier, mais il y avait un événement privé, c'était fermé. Mais on est revenu, on leur pardonne.
Donc vous voulez vraiment visiter le musée ?
Oui, vraiment, on avait très envie de venir voir ce qu'il y a ici.
Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de l'esclavage ?
Disons qu'on a appris des choses à l'école, mais c'était déjà il y a un bon bout de temps. Je me rappelle bien sûr de William Wilberforce, un des meneurs du mouvement abolitionniste anglais, et un peu de l'histoire dans son ensemble.
Aussi, nous avons des cousins qui vivent aux États-Unis, en Louisiane. C'est un endroit où il y a bien sûr beaucoup de plantations. Un endroit qui est marqué par l'histoire de l'esclavage. On y est allé en vacances et on a visité pas mal de plantations où, dans le passé, travaillaient des esclaves. Donc oui, maintenant on est curieux de voir ce que ce musée a à nous raconter, afin pour nous de compléter ce que nous avons vécu et vu de l'autre côté de l'Atlantique.
Black people talk about slavery. Get over it. It happened 400 years ago. That kind of thing.
La liberté nous permet d'être responsable parce que déjà on voit qu'on n'est pas obligé.
On entend plein de gens parler. Alors il y a plein d'écrans dans un mur. Les murs sont en briques à l'intérieur, exactement comme l'ensemble du bâtiment.
Donc quand on commence la visite par cette galerie, on peut voir tous ces écrans, toute une série d'entretiens, de témoignages de personnes connues ou d'anonymes. Ce mur s'appelle le mur de la liberté. Donc, dès l'entrée du musée, nous avons choisi d'interpeller le visiteur sur le thème de la liberté. Pas celui de la traite transatlantique, mais celui de la liberté. Car, il faut le dire, ce que nous mettons en lumière ici, tout au long du parcours, ce sont les différentes formes de résistance à l'esclavage. Vous allez le voir dans deux autres galeries. Donc ici, nous avons filmé plus de 50 personnes sur le sujet. Vous pouvez voir et écouter des historiens de Liverpool, des stars de télévision, des étudiants étrangers, à qui on a simplement demandé quelle était leur perception de la liberté de l'esclavage. Donc cela vous donne un aperçu de la vision des gens, en particulier celle des jeunes. Vous savez, c'est très intéressant parce que, de nos jours, ils ne connaissent pas grand-chose au sujet, mais ils ont quand même leur définition de la liberté.
Docteur Benjamin, quand a commencé l'esclavage à Liverpool, en Angleterre aussi plus généralement ?
Liverpool...
L'histoire de Liverpool est intéressante parce que ce n'est pas la première ville britannique à s'être engagée dans le commerce transatlantique des esclaves. C'était Londres et Bristol. Autour de 1730, il y avait entre 15 à 20 bateaux qui partaient chaque année du port de Liverpool pour rejoindre l'Afrique. Mais vers 1790, ils étaient plus d'une centaine de navires. Donc ça montre bien à quel point Liverpool a dominé le commerce triangulaire de 1730-1740 jusqu'à l'abolition de la traite des esclaves en 1807. imaginez que vers 1790, donc dans la dernière décennie qui a précédé l'abolition de la traite, Liverpool dominait à elle seule 80% du commerce triangulaire du Royaume-Uni, mais également 40% de la traite européenne. Donc c'était la ville la plus puissante dans le domaine. Nantes, Bordeaux, La Rochelle étaient également impliquées, l'Espagne et le Portugal aussi.
Nantes, Bordeaux, La Rochelle sont des villes de l'ouest de la France qui étaient aussi des ports négriers.
De nombreux historiens se sont interrogés sur le nombre d'Africains qui auraient traversé l'Atlantique à bord de navires venus de Liverpool. On parle d'1 million à 1,5 million d'Africains. Mais une chose est sûre, c'est que Liverpool est devenue très riche et très puissante grâce à son implication dans le commerce transatlantique et grâce à la traite des esclaves.
Et en voyage à Liverpool, Sarah, il faut aussi savoir quitter le confort des espaces institutionnels et muséographiques, très nombreux d'ailleurs sur les docks, pour se perdre dans la ville.
Oui, parce qu'elle regorge d'indices et d'empreintes de ce commerce triangulaire. Dans les rues, il n'y a pas de route de l'esclave avec des panneaux dédiés. Il faut donc aller chercher ces indices. C'est ce que j'ai fait en compagnie d'Eric Lynch, un guide militant de la communauté noire de Liverpool, l'une des plus anciennes d'Europe. Eric a 84 ans et il se revendique petit-fils d'esclave des plantations de Saint James à la Barbade.
Et c'est lui, vous l'avez dit, Sarah, qui a conçu le seul tour thématique sur l'esclavage dans la ville, le Liverpool Slavery History Trail.
Ensemble, nous avons quitté sous une pluie battante le port de la ville pour rejoindre le centre historique. À pas lents, Eric et son incontournable bonnet à l'effigie d'Obama avancent à l'aide d'une canne en bois aux allures de bâton, de pèlerin, de la mémoire.
Direction l'Exchange Flag, juste à côté de la mairie, sur une large place, entourée de bâtiments colossaux qui rappellent forcément le faste et les richesses du commerce transatlantique.
Regardez bien ici, sur votre droite. Vous avez ce grand bâtiment en pierre grise. C'est la bourse du coton de Liverpool. La ville est devenue extrêmement puissante grâce au coton. Et c'est là, dehors, qu'à une époque, on marchandait et fixait le prix du coton. Donc maintenant, on va aller par là. On va décoder cette façade.
Sur la mairie, toutes ces colonnes corinthiennes, là, on est juste devant. Effectivement, on peut lire toute l'histoire de l'esclavage en bas-relief, tout en haut, mais il faut regarder.
Là, vous voyez tout en haut une corne d'abondance avec tous ses fruits. Ça, ça représente le début de l'essor de Liverpool, avec l'agriculture et la pêche. Puis si vous regardez tout à gauche, au bout de la frise, on voit ensuite des tonneaux de riz, de rhum, des cordages et la flotte coloniale. Et puis, plus loin, des fruits exotiques, des sacs de sucre, de coton, un coffre au trésor avec tout plein d'or dedans. Donc si vous affûtez votre regard et que vous apprenez à décoder ces symboles, eh bien vous arrivez à lire toute l'histoire de Liverpool.
On est à Water Street et il pleut de plus en plus.
Oui, et maintenant on va quitter cette place et aller voir un autre bâtiment juste à côté. Regardez ce bel immeuble. C'est une banque.
Martin's Bank Building. C'est la banque Martin's.
Here we have two men.
Et là, vous voyez ces sirènes sculptées sur la façade. Eh bien, regardez par là, en haut. Vous voyez la sauterelle. C'est la marque de la banque. En dessous, au niveau de cette petite entrée, il y a des dauphins et Neptune. Neptune qui pose ses mains sur la tête de deux enfants africains. Chaque enfant africain tient dans sa main un sac qui représente les richesses de l'Afrique. L'or, les diamants, l'argent. Et vous voyez, ils sont debout sur le pont d'un bateau négrier. Autour de leurs chevilles, il y a des chaînes. Ils ont des natures de cheveux différentes, ce qui veut dire qu'ils viennent de deux régions différentes d'Afrique. Et le fait qu'ils soient dos à dos montre qu'ils ne peuvent pas communiquer et donc pas s'échapper. Quand cette banque a été construite en 1927, il n'y avait aucune honte à afficher cette histoire comme ça dès l'entrée. Ce bas-relief montre bien l'arrogance des banquiers qui sont fiers de montrer au monde entier qui ils sont et comment ils se sont enrichis. Et vous savez, si vous faites des recherches sur les banques à Liverpool, ne soyez pas surprise. La plupart ont été impliquées dans le commerce d'esclaves. Bon, on va voir à l'intérieur.
On rentre dans la banque. Il faut être au chaud, parce qu'il pleut dehors. Wow, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est magnifique à l'intérieur, il y a plein de couleurs, il y a une coupole peinte.
A
À l'origine, avant que Liverpool ne s'engage dans le commerce d'esclaves, ici, il n'y avait rien d'autre que des moutons, des vaches et des fermes. Du nord au sud, des champs à perte de vue, des forêts. Et quand la ville a commencé à participer à la traite négrière, beaucoup de Britanniques sont venus s'installer à Liverpool pour participer à ce commerce. Tous les arbres ont été abattus pour construire les bateaux négriers. Et tout ça a probablement commencé dès la fin du XVIe siècle. C'est difficile d'avoir des dates précises parce qu'au début, c'était illégal et tout a commencé dans le plus grand secret. On n'a jamais vraiment fait venir d'esclaves à Liverpool. Ce sont les biens produits dans les plantations que l'on ramenait ici, le tabac, le coton ou le riz. Je l'ai dit, c'est compliqué d'établir des dates, mais je vais vous donner quelques indices. Après le grand incendie de Londres de 1666, de nombreux négociants sont venus ici pour investir dans le commerce d'esclaves. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on retrouve ici des noms comme Kensington, Canaan et beaucoup d'autres. Mais il n'y a pas que les riches londoniens qui sont venus ici en nombre. Il y avait aussi beaucoup de gens des classes populaires, parce qu'il y avait du travail, des objets à façonner, pistolets, couteaux, haches, verres, cordages. Toute une industrie s'est alors mise en place autour de l'esclavage. Mais comme je le disais, quand les premiers ont commencé, tout était encore secret. Personne ne devait savoir de quel véritable commerce il s'agissait. Je vous donne un dernier exemple. Beaucoup de gens connaissent Francis Drake, l'explorateur, mais beaucoup moins savent que son cousin était un marchand d'esclaves. C'est comme la guerre entre l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Portugal. Tout était lié à l'esclavage. Pourquoi l'Angleterre voulait à tout prix les Caraïbes ? Parce qu'elle voulait mettre la main sur les plantations et le sucre. Tout reposait là-dessus. Voilà comment les bateaux quittaient Liverpool pour l'Afrique.
Et tout de suite, c'est Esclave du grand et regretté Papa Wemba sur RFI.
Papasi ya papa yao na nyoko makana fimbo ya papa yao bobo melanga ibanza menyo so ya Afrika bobo na Amerika na salinze ya masini yo bobo na Afrika panyolala na nkingo bote Zandwa tipo tipo Zela molai Oyo zela Zanzibar Na keye Na meri
devant nous, qui est diffusé dans un petit amphithéâtre, qui raconte les conditions de voyage. On voit des esclaves attachés dans la cale du bateau. Et ces images, on est devant là, elles sont très très dures à regarder. On a des gros plans des chaînes, des gros plans d'eux en train de vomir.
In one sense, it is an impossible task.
Quelque part, c'est impossible de décrire cette souffrance, mais on a essayé. Pour illustrer ce passage du milieu, on a commandé un film très court, très abstrait, plutôt fort, viscéral même, afin d'exprimer en quelques minutes seulement toute l'horreur que vivaient les esclaves à bord des cales de navires pendant cette traversée de l'Atlantique. Je pense que le film provoque des émotions, de la colère peut-être, de l'horreur ou de la tristesse, mais au moins, cela fait naître des émotions. Et c'est justement ce qu'on recherchait.
Susciter l'émotion afin de raviver les mémoires. C'est le parti pris du Musée international de l'histoire de l'esclavage de Liverpool, qui chaque année reçoit 400 000 visiteurs et que vous avez découvert pour nous, Sarah.
Oui, en particulier dans cette galerie intitulée « L'esclavage et le passage du milieu », en référence au supplice qu'enduraient les esclaves durant leur traversée de l'Atlantique, qui durait entre 6 et 8 semaines. Après avoir traversé un petit décor de cases africaines sans grand intérêt, on atterrit donc dans cet espace immersif. Et à côté, des bornes audio et d'autres films nous racontent la vie dans les plantations, les tentatives d'évasion, les sévices quotidiens et les meurtres. Ce sont des acteurs qui interprètent ces récits d'esclaves.
Après, ce choix hyper multimédia, voire fictionnel, n'est pas du goût de tous. Talia Taylor est venue exprès ici, depuis Birmingham.
Je suis venue ici quand j'étais petite. Je voulais y emmener mon fils. Et on y retournera quand il sera plus grand. Mais je dois avouer que je suis vraiment déçue. Quand je suis venue enfant, c'était vraiment éclairant, réaliste et concret. Il manque de nombreuses pièces que j'avais vues dans l'ancienne galerie. Par exemple, il y avait une reconstitution de bateaux négriers où on pouvait sentir les excréments, voir le sang des esclaves. C'était beaucoup plus réel. On pouvait imaginer comment ça se passait vraiment. Là, je viens juste de voir le film sur le passage du milieu, mais j'ai trouvé ça très abstrait. On mentionne que les esclaves étaient battus, mais on a du mal à saisir l'ampleur de cette violence, à quel point la torture pouvait être vicieuse. Par exemple, les maîtres avaient l'habitude d'ajouter du citron et du poivre sur les plaies des esclaves après les avoir fouettés. J'ai l'impression qu'ici, on a perdu la force de cette histoire et cela me met en colère.
Est-ce que vous avez appris ça à l'école ?
Non, on ne parlait pas de ça à l'école. On abordait rarement ce genre de détails significatifs pourtant. Parce que c'est facile d'étudier le commerce triangulaire comme un fait purement économique. Or, les faits psychologiques sont si profonds, si intenses, que nous devons nous en rappeler. C'est l'émotion qui rend ces faits importants, c'est l'émotion qui nous fait venir ici. Nous devons garder en mémoire cette émotion-là. Quand on est noir comme moi et qu'on parle d'esclavage dans une société blanche, souvent la question qui revient, c'est « Comment arrivez-vous à dépasser ça ?» Eh bien, c'est justement grâce à cette émotion qui est notre force. Nous devons toujours nous en rappeler, car cette violence et cette cruauté continuent sous d'autres formes. Nous devons continuer à mener cette bataille de la mémoire pour que chacun d'entre nous puisse avancer.
Et donc, ils faisaient monter les esclaves à bord et les faisaient traverser l'Atlantique jusqu'en Amérique, où ils étaient vendus aux propriétaires des plantations.
Donc là, on était avec un groupe, avec Barbara, qui faisait visiter le musée, qui est une bénévole du musée. Et on vient de tomber sur vous. Vous êtes un groupe scolaire, vous venez d'où ?
De Normandie. En fait, on visite Liverpool et Manchester avec des élèves de seconde et de première STI2D. En fait, les objets qui sont présentés, la manière, la scénographie est très bien faite.
On voit les vraies images, les vrais objets, comment ils vivaient. Et du coup, qu'à l'école, c'est sur document, donc on ne voit pas les vrais objets, tout ça.
La vidéo, on est au centre, on a l'impression d'être dans le bateau. On voit le sang et je pense que c'est histoire de choquer les esprits et ça marche.
Il y a un sentiment d'oppression et oui, on a envie de sortir en fait. On y rentre par curiosité, on a envie de sortir parce que les images sont... Et le problème, c'est qu'ils passaient plusieurs mois dans le bateau, dans ces conditions-là. Et nous, c'est quelques secondes.
Bonjour Barbara. On est ici devant une carte que vous avez expliquée. Donc c'est une carte du commerce triangulaire.
Oui, mais il faut bien avoir en tête que l'esclavage existait depuis des siècles déjà. Les Arabes avaient des esclaves, les Romains, les Grecs aussi. Autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que durant la traite, certains chefs de villages africains ont travaillé main dans la main avec les Européens. Ils voulaient les objets du monde moderne, comme les pistolets ou les tissus. Et pour cela, en échange, ils ont vendu leur propre peuple, qui a atterri sur ces bateaux que vous voyez là.
On a une maquette juste en face de nous d'un bateau et qui est reconstitué aussi juste au-dessus avec une peinture.
Le bateau que vous voyez, c'est un modèle réduit, avec des esclaves qui sont au fond de la cale. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des grands-parents. L'âge n'importait pas tant qu'il permettait d'enrichir le vieux continent. Mais ils ne sont pas nés esclaves. On les a réduits en esclavage. Les femmes étaient particulièrement en danger. Certains membres de l'équipage abusaient d'elles. Elles étaient systématiquement violées, maltraitées. Ils les mettaient à l'écart. Les hommes et les jeunes garçons, eux, étaient placés dans la cale en dessous. En route, ils attrapaient souvent des maladies, mais on ne les soignait pas. Beaucoup s'effondraient. Mais rien que pour vous parler de Liverpool, ma ville, il faut bien se rappeler qu'elle s'est impliquée dans cette traite dès la moitié du XVIIIe siècle.
On continue la visite du musée avec Monsieur Benjamin. Et là, on arrive justement à ce mot-clé dans le musée qui est l'héritage. On est devant une pancarte qui essaie d'expliquer en fait quels ont été les différents héritages de ce commerce transatlantique. Il y a eu le racisme et la pauvreauté, par exemple.
Oui, cette dernière galerie cherche à interpeller le visiteur sur les répercussions de ce commerce triangulaire. Et parmi ces répercussions, ces traces, il y a ce que vous voyez là. Tout simplement une série de plaques des noms de rues de Liverpool. C'est un débat énorme ici, mais aussi dans le reste de l'Europe, par exemple en France. Ces noms de rues sont souvent ceux de négriers qui se sont largement enrichis avec la traite.
Effectivement, on a devant nous des pancartes qui indiquent le nom des rues. On a Gorée Piazza, donc la place de Gorée, la rue de la Jamaïque aussi.
La rue de la Jamaïque est aujourd'hui située dans une partie très industrielle de la ville. Et évidemment, elle renvoie au pays, la Jamaïque, qui a largement souffert de l'esclavage. Il y a aussi la rue Great Newton, Conlife, Earl ou Penny Lane. Tous sont des noms d'esclavagistes. Il y a aussi la rue Tarleton. Ce nom Tarleton est tristement célèbre jusqu'aux États-Unis. On l'a surnommé le boucher. C'est une grande famille d'esclavagistes qui venait de Liverpool. Et ce nom résonne beaucoup chez nos visiteurs américains. Aujourd'hui, tous ceux qui marchent dans cette petite rue de Liverpool ne savent pas qu'elle est reliée à tout ça. Et le débat, bien sûr, c'est de changer le nom des rues. Nous, au musée, nous sommes contre. Nous pensons que ces noms font justement partie de la mémoire. Il faut juste mieux expliquer qui étaient ces hommes. Et ça, c'est important.
Expliquer l'histoire et qui étaient vraiment ces hommes jadis honorés est un enjeu d'autant plus important à l'heure où certains déboulonnent les statues de Colston à Bristol, un autre port négrier anglais, ou de Shoalshire dans les Antilles. Pour ce qui est de Liverpool et de Penny Lane, le débat reste ouvert. En effet, récemment, pendant les dernières manifestations contre les discriminations raciales, des tags sur lesquels on pouvait lire « racist » sont apparus sur les panneaux de cette rue célébrée en son temps par les Beatles. En 2016, le Musée international de l'esclavage assumait le lien entre cette rue et James Penny, esclavagiste notoire de la fin du XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, dans la tourmente, il a reconnu via Twitter qu'une incertitude existe finalement sur ce lien. Il n'empêche, une chose est sûre, la mémoire ne saurait se cantonner au seul musée. Elle doit se lire, à même la rue et surtout dans les manuels d'histoire. Merci à Sarah Lefebvre et Cerise Maréchaux pour leur reportage, Céline Develay-Mazurel, Laura Larry. On vous salue et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages.
Retrouvez Si loin, si proche quand vous le souhaitez en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr. Le débat.